Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue au French Cast, Simon.
Incroyable, merci beaucoup de m'inviter.
T'as des histoires parce que t'es allé en Grèce, ça fait 2 ans.
Ouais, mais toi, t'es grec.
Ouais, moi, je suis grec.
Fait que c'est ça. Puis ma copine est albanaise.
Ouais. Mais tu peux pas gagner tout dans la vie, tu sais.
Pour ceux qui savent pas, les Grecs n'aiment pas les Albanais.
C'est pas vrai.
C'est ben, pas fou.
C'est comme... Ouais, c'est pas fou. Non, t'as raison, puis t'as pas raison.
C'est comme les
c'est pas une rivalité comme non, intense.
Non, c'est comme les francophones puis les anglais.
Ouais, c'est comme ça. On se taquine.
Mais l'été passé, il y a un an, j'étais allé magasiner avec ma copine et sa mère, puis eux autres sont allés magasiner de leur bord.
Ça, c'est en Athènes.
À Athènes, ouais. Dans un centre commercial d'Athènes. Puis un moment donné, ils sont venus, puis ils m'ont conté une histoire qui ressemble beaucoup à l'histoire de Pretty Woman. C'est-à-dire qu'il a regardé des robes, puis là, la vendeuse qui a comme compris qu'il était albanais, les deux, a fait « Ouais, ça, c'est un peu cher, ça, c'est peut-être pas pour vous autres. » Tu sais, des affaires de filles, de tout ça. Puis là, elle a dit « Reviens, comme moi là, ça, viens avec nous, puis on va retourner au magasin pour que tu... » Tu sais, on pourrait-tu comme faire semblant qu'on va dépenser beaucoup, puis pas dépenser, tu sais.
T'as-tu retourné?
Ouais, je suis retourné.
C'était comment? Et étais-tu gentil avec toi?
Moi, ouais, finalement, il était gentil.
Ouais.
OK, fait que là, il y a un blanc qui est arrivé.
Ouais. Mais c'est, oh, lui, on doit le respecter.
Lui, on doit le respecter.
Il vient de l'Amérique du Nord.
Je le sais. Puis c'est quoi, le privilège blanc, c'est comme épouvantable, mais c'est tellement le fun.
Le privilège blanc, ça existe pour comme le monde qui ne savent pas qu'il peut avoir ce privilège-là. Comme toi, tu ne savais pas que tu peux aller en Grèce et que tu vas être différent.
Non, moi, je ne savais pas. Fait que là, à chaque 2 semaines, j'ai dit, on s'en va en Grèce. Là. C'est sûr que c'est en Grèce que ça se passe pour moi. Là.
Mais tu sais comment ça, si quelqu'un, parce qu'ils sont vraiment stricts à cause du tourisme,
ouais.
Si quelqu'un avait su que qu'il était méchant avec eux, tu sais comment c'est extrême maintenant en Athènes, le gouvernement, il déteste ça. Ouais, parce que, ouais, parce qu'il veut pas avoir un nom comme ça
à
propos du tourisme. Alors, c'est beaucoup de troubles maintenant, ouais.
Puis ça m'est arrivé une autre fois, j'étais allé à Paros, c'est une des îles grecques.
Ouais.
Incroyable. On est allé magasiner là, puis finalement... Un des vendeurs là-bas, qui était le propriétaire de sa boutique, a aussi parlé des Albanais à ma blonde qui est albanaise. Puis elle a dit, tu sais, vous venez ici, vous prenez nos jobs, da-da-da. C'était comme vraiment... Fait que là, après ça, je suis retourné, j'ai donné un char de marde. Puis j'ai dit, en passant, je suis blanc. Il dit, oh shit, non, c'est
pas... En face, mais, je suis pas albanais.
En tout cas, fait que c'est ça. Fait que c'est mon histoire d'Albanais versus...
Je vais dire quelque chose. En 2003 ou 2005... Ouais, 2003, j'étais en Grèce, j'étais jeune, j'étais en école secondaire. Puis j'étais là avec mes cousins. Eux, ils viennent de l'Alberta, moi, je viens d'ici. Mm-hmm. Mais moi, je parle grec comme un grec. Comme j'ai pas d'accent. Eux, pas du tout. Eux, c'est vraiment fort. Comme,
okay.
Alors, on était tout ensemble. J'étais assis à côté d'eux. On mange, on boit des cafés. Je prends, tu sais, je vais avoir l'addition. Je vois nos deux additions différentes. Eux, ils étaient chargés beaucoup plus que moi. Puis c'était évident, c'était affreux. Alors moi, je commence à rire. Je dis au serveur, « Hey, qu'est-ce qui se passe ici? T'sais, pourquoi moi, j'ai payé comme ça? » Puis lui, il dit, « Mets-toi des affaires, man. Eux, c'est pas des Grecs. Pourquoi tu devrais t'en foutre? » Puis je dis, « Non, c'est des Grecs. Ils viennent du Canada. Moi aussi, je suis grec. » Il dit, « Arrête de niaiser, c'est pas des Grecs. » Il dit, « Non, ils parlent. »
Il y a un accent, mais c'est grec.
Puis en plus, tu fais ça à tout le monde qui n'est pas grec? À des touristes?
Oui, mais là...
Ouais, c'est... tu peux trouver des gens comme ça partout.
Puis moi, pour une raison bizarre, tu sais, comme j'ai un entraîneur qui s'appelle Nick Drossos, grec à mort.
C'est notre ami.
Oui, OK. Nick. Ouais, Nick, ouais. Incroyable gars, incroyable. Ouais. Grec à mort, ma copine albanaise qui a vécu en Grèce. J'ai comme de quoi, chaque année, je vais en Grèce maintenant pour voir la famille.
C'est fun.
Il y a comme un lien que j'ai bizarre avec la Grèce. Je sais pas ce qui se passe, là, mais on dirait que c'est ça. Peut-être, peut-être que je vais faire faillite.
Puis tu vas aller là-bas. Ouais, tu vas prendre nos trucs. Nick, en passant, j'ai une drôle histoire. Puis je voulais parler, à soir, je vais être au bordel. Puis je pense que je vais parler de lui parce qu'il faisait quelque chose qui me faisait toujours rire, puis tu vas l'apprécier. Alors lui, tu sais, il fait ses self-defense videos.
Ouais.
Puis il mettait toujours des vidéos, mais il ne mettait pas de watermark. Alors c'est juste des vidéos de lui qui essayait de battre des femmes. Sans contexte. OK? Puis j'étais comme, Nick, mais tu dois arrêter ça parce que tu mets pas de titre. Tu sais, c'est juste toi qui essaies de battre des femmes. C'est juste, j'ai 20 vidéos de toi qui t'attaques des femmes. C'est incroyable. Puis comme, ouais, t'as raison.
Ouais, pas bête.
Ouais, je devrais faire quelque chose.
Il y a vraiment un bon montage à faire avec ça.
Oh, toi, oh, c'est vrai, c'est drôle que tu étais avec Joe Sauce parce que je sais que Sammy aussi, ils sont entraînés avec
Joe
Sauce. Ouais,
mais c'est Sammy, en fait, qui me l'a référé.
OK, intéressant.
Ouais, c'est sûr que Sammy me l'a référé.
Fucking, c'est un petit monde, man.
Petit monde, man, Montréal. Petit monde.
Très.
Tout le monde se connaît.
Toi, j'étais surpris parce que c'est juste récemment, c'est pour ça que je voulais te parler, je trouve ça intéressant. Parce que moi, je te voyais comme un comédien, un acteur.
Oui.
Tu sais, parce que je t'avais vu avec Sammy.
Oui.
Mais évidemment, tout le monde me dit, mais non, non, c'est, il fait ça, mais son vrai talent, c'était réalisation. C'était comme, t'es très bon dans ça.
Oui. Ben, merci.
Ben, écoute, si c'était moi qui le disais, tu pouvais me remercier, mais c'est d'autres gens qui me disaient ça.
OK.
Alors moi, je trouvais ça intéressant parce que toi, avec Sammy, tu travailles avec quelqu'un que lui a le comedic timing.
Oui.
Puis des fois, c'est pas évident. Mais toi, c'était-tu... Parce que tu avais le comedic timing, tu étais drôle. C'était-tu difficile d'être quelqu'un qui était habitué d'être en arrière de la caméra, d'avoir ce... OK, je dois activer mon comedic... C'était-tu facile pour toi? C'était-tu quelque chose que tu voulais faire avant?
Ben, c'est parce que j'ai fait les deux, en fait.
En même
temps? Que j'ai toujours fait les deux, en fait. Là, en fait, c'est le moment dans ma vie où je fais le moins les deux, c'est en ce moment.
OK.
Mais avant ça, j'ai une émission qui s'appelait Les Chicken Swell avec...
Daniel?
Daniel Grenier et Francis Cloutier. On a fait 3 saisons Radio-Canada. C'est nous autres qui écrivaient, qui réalisaient, qui jouaient. C'était comme... Notre émission. Ensuite, j'ai fait un film qui s'appelait Bluff, dans lequel j'ai réalisé aussi, puis je jouais aussi, co-réalisé le film Bluff. Ensuite, j'ai fait un truc qui s'appelle En audition avec Simon, qui est une série web en 2010 ou 2011, ça commençait dans ce coin-là. Et puis là, j'écrivais, puis je réalisais, puis je jouais. Fait que j'ai tout le temps...
Ça a popé.
Ça a bien été ce projet-là. Après ça, on a fait le projet de ces gars-là avec Sugar Sammy. Puis après ça, j'ai fait le bye-bye. Puis le bye-bye, je me suis comme mis une drôle de position dans le sens que là, je suis plus le réalisateur slash je signe le show. Là. Ben, mais je joue quand même un peu de temps en temps parce que je me donne des rôles.
Tu sais que tu peux le faire.
mais là, j'essaie de me donner des affaires qui fit. Mais aussi, on a des comédiens tellement bons, fait que tu veux laisser être bon. Là, tu veux laisser de la place pour être bon.
Puis est-ce que tu travailles beaucoup avec des productions juste québécoises ou est-ce que tu travailles avec d'autres mondes de l'extérieur?
Bien, pour le moment, c'était juste québécois, mais j'avoue que plus j'avance, plus j'ai le goût de sortir du Québec. Pas que j'ai rien contre le Québec, j'adore ça.
Non, mais tu veux essayer d'autres choses.
Oui, je vais essayer de voir s'il y a moyen. Parce que, tu sais, une des raisons pourquoi Sugar Sammy puis moi, on s'entend de si bien, dans le fond, puis on s'entend bien, c'est parce que j'ai comme été élevé avec la culture anglophone en premier.
Intéressant.
Oui, ma mère est anglophone, puis chez nous, c'est surtout la télé anglophone qui jouait. Fait que la culture québécoise francophone, je l'ai découverte plus tard. Je connaissais quand même les affaires importantes. Mettons, j'étais un fan de Rock et Belles Oreilles. J'étais un fan de. Je connaissais une couple d'affaires pareil.
Passe-partout.
Ben oui, mais j'ai pas tant écouté Passe-partout.
Oh
fait.
Non, moi oui.
Moi, j'écoutais Sesame Street. Ah oui, t'as écouté
Passe-partout. Et Sesame Street, mais Passe-partout, je le connaissais. Mais la culture québécoise, c'était vraiment. Ça fait quelques années, c'est Mike qui m'a vraiment poussé. Mike Ward qui m'a poussé dans ça. Puis j'ai appris plein de choses que lui était choqué que je connaissais pas.
Ben oui.
Parce que j'étais né ici. Puis, alors pour moi, c'est beaucoup de fun parce que j'ai eu la chance d'avoir cette séparation. J'ai pas la nostalgie. Alors, j'apprécie les choses à cause qu'ils sont bons.
Ouais.
J'ai comme, oh fuck, ça c'est cool. Je l'aime pas juste à cause que c'était quelque chose de quand j'étais petit qui me restait dans la mémoire. C'est vraiment parce que on fait des choses de qualité ici. Puis des fois, je trouve que les Québécois, à cause que c'est à eux, ils voient pas. Ouais. On a des bonnes choses ici.
Mais on fait les deux. On fait de la qualité puis on fait de la merde.
Partout. Partout.
Oui, partout. Partout. Ah oui, partout, en fait. Vraiment, en fait. Mais non, oui, il y a beaucoup de talent ici au Québec. Là. Il y a vraiment des gens talentueux qui travaillent fort, qui travaillent bien. Puis on est capable de s'habituer avec les moyens du bord, qui est un talent vraiment important, en fait, là, pour travailler dans ce domaine-là.
Puis toi, maintenant, tu dis que tu veux essayer d'autres choses. Ouais. As-tu commencé déjà à travailler avec, à faire des films ou n'importe quoi, mais avec comme d'autres pays?
Mais j'ai commencé à faire des trucs. Comme là, je travaille sur un truc en anglais que je vais tourner cet automne. C'est un petit truc, mais qui va peut-être ouvrir des portes pour d'autres trucs en anglais. Je développe des projets, différents projets, mais ils sont en anglais même américain, je te dirais. Là,
ça, c'est cool.
Ouais. Parce que comme je passe peut-être la moitié de l'année aux États-Unis depuis une couple d'années, parce que ma copine habite à New York, fait que je suis comme...
C'est où que tu l'as rencontré?
Écoute, moi, c'est une drôle d'histoire. Moi, je voyage pas dans la vie. Maintenant, je voyage, mais avant de rencontrer ma copine, je voyageais pas en tout. Je faisais juste travailler. Puis, un de mes amis avait des problèmes de dos. Puis, il disait, hey, man, faut que j'aille à Miami, genre 4-5 jours. Ben, faut que j'aille à Miami. Faut juste aller me reposer au soleil, juste parce que il faut vraiment que je prenne un break. Il disait, il y a un deal sur des hôtels à Miami. On va dire à Miami. Bah, OK, sure, on va aller à Miami. Fait qu'il organise les billets d'avion, je sais pas comment acheter ça, je sais pas rien. Lui, il organise tout. On arrive là-bas, puis là, j'ai commencé à avoir de l'anxiété. Je me dis, qu'est-ce que je fais à Miami? Je suis posé en train de travailler, c'est pas le temps de prendre des vacances, puis je suis vraiment de mauvaise humeur, en fait. Puis là, mon ami qui est là, qui lui a trouvé des deals, puis tout ça, il est super content. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est comme, qu'est-ce que je calisse ici? Fait que.
T'aimes pas les Cubains, c'est ça?
J'aime pas les poubains, j'aime pas la coke. Mais finalement, le lendemain, on est allé se promener dans une espèce de musée à air ouvert. Et puis, j'ai rencontré deux filles par hasard. Puis, ils étaient de dos sur une roche, mais ça faisait une belle. Puis, j'aime faire de la photo. Ça fait une belle image. Fait que j'ai demandé aux filles, excuse me, can I take a picture? Fait que là, j'ai pris une photo d'eux. Puis, on a commencé à parler aux filles. Puis, là, finalement, on a parlé pendant une heure, juste là, dehors. Puis, là, finalement, leur hôtel était comme à une minute de notre hôtel, à 45 minutes de où qu'on était. Puis on a dit, ben on a une piscine, nous autres, puis les autres étaient cassés. Fait que ben, ça vous tente de venir vous baigner demain, puis là, c'est le même, puis ça a parti comme ça.
Ça, c'est cute, ça, c'est comme un film.
Ouais, fait que j'ai une photo de la minute, les secondes que j'ai rencontré ma copine, j'ai une photo de ça.
Tu peux pas la laisser, tu sais ça, hein? Maintenant, tu dois te la marier, avoir des enfants, c'est juste elle maintenant. Sinon, tu gâches toute l'histoire.
Ouais, je sais, mais aussi, c'est que je sais pas trop dans quel pays on va avoir des enfants. Là, c'est comme un problème pareil. C'est quand même un problème quand il pense. C'est pas si simple.
Si tu peux choisir, moi, je te conseille d'avoir les enfants aux États-Unis parce que c'est plus difficile.
Ouais.
C'est pour leur papier, ouais. Des citoyens. Mais dès qu'ils sont nés là-bas, ils sont des citoyens américains. Puis ils sont des citoyens canadiens parce que canadiens, c'est comme ça que ça marche. Même s'ils sont nés ailleurs, si toi, t'es canadien, un des parents est canadien, alors ils vont avoir le dual citizenship, ils peuvent faire n'importe quoi dans la vie.
Ben, pour la naissance, c'est une bonne idée, mais c'est ouais. Ça.
Mais après
une
ça,
semaine
pour.
Après, t'es amené ici.
Ouais, tu sais, la température ici, c'est de la merde, mais l'affaire qui est excellente ici, au Québec, ils vont apprendre deux langues.
Ouais.
C'est...
Ouais, ils vont apprendre le français et le grec.
Mais tu sais, à cause de leur mère, on va dire, si t'as des enfants, ouais. Ils vont parler quatre langues.
Ouais, il y a des possibilités qu'ils parlent quatre langues.
Ça, c'est cool.
Ouais, c'est cool. Mais si tu, je sais pas si t'as ce sentiment-là, parce que toi, t'as toujours parlé trois langues.
Mm-hmm.
Tu parles anglais, français, grec, right?
Ouais.
Puis, mais t'as habité à Montréal tout le temps?
Ouais.
Est-ce que t'as voyagé quand t'étais jeune? C'est-à-dire, jusqu'à l'âge de 20, t'étais à Montréal?
Ouais.
Moi, depuis que je voyage, j'ai commencé tard dans la vie à voyager. J'ai commencé à 40 ans, OK?
OK, toi, plus tard
non,
que
ben,
moi.
Non, je suis plus vieux que toi, pas mal. Fait que j'ai commencé tard, puis ça a tellement ouvert mon esprit. Ça a tellement fait aïe aïe de un, les affaires qu'on fait ici, on peut les faire n'importe où, parce que c'est le même... Tu sais, il n'y a pas des gens plus talentueux parce que c'est ailleurs. Au moins, c'est quand même égal. Tu sais, t'as du monde qui sont bons, t'as du monde qui sont moins bons. Mais on dirait que ça a comme... C'est quelque chose qu'on sait, mais que ça confirme. Parce que aïe aïe, je pourrais, tu sais, vivre n'importe où, finalement. Là.
Simon, j'avais... des conversations comme ça avec des gens.
Mm-hmm.
C'est pour ça que ça me fascine puis je me fâche quand je vois des lois qui essaient de séparer, on va dire, si t'es anglophone ou si t'es francophone, ouais. Tout ça. Moi, je pense qu'on doit faire quelque chose ici, que tous les enfants, toutes les écoles ici sont parfaitement bilingues.
Ouais.
Alors, toute la nouvelle génération peut faire n'importe quoi dans le futur. Parce que c'est des Québécois qui parlent anglais aussi bon que les Américains. Leur business, leur entreprise peut avoir une expansion, tu peux travailler n'importe. C'est ça que moi, je veux parce que chaque fois que je vais aux États-Unis, on va dire, je vois des fois des imbéciles avec des grands business, ils font tout.
Oui.
Puis je suis comme, man, moi, je connais des Québécois qui ne veulent pas sortir à cause qu'ils ne parlent pas anglais, mais leur talent est plus meilleur, ils sont plus que ces gens-là. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on nous enferme.
Oui. Puis il y a un côté de ça qu'on dirait que tant qu'on sort. Tu sais, le Montréal puis le Québec, c'est ma maison. Là. C'est comme si ici, je me sens chez nous. Ouais. C'est vraiment important. Mais une fois que tu sors, tu dis, j'étais un peu dans une prison en or, mettons.
Ouais, c'est vraiment ça.
Tellement bien servi, tellement. Tu sais, ma carrière, c'était au Québec, francophone, puis j'ai des contrats ici, puis tout est le fun ici. Puis c'est vraiment, je peux pas cracher là-dessus. Parallèlement à ça, je me dis. Ce confort-là m'empêche d'aller voir ailleurs d'une certaine façon, mais quand tu vas ailleurs, tu dis, hey, OK, j'apprends comme d'autres choses, puis il y a d'autres possibilités, puis c'est motivant, puis c'est inspirant, puis c'est thrillant, tu sais.
Puis c'est fun.
Puis c'est le fun. Ouais, c'est le fun. Puis surtout que, tu sais, vu que tu parles plusieurs langues, je parle anglais, français, mais c'est le fun d'exploiter ces différentes choses-là. Puis aussi, en français, puis en anglais, puis j'imagine en grec, c'est la même chose, puis en albanais, puis en whatever. Quand tu apprends une autre langue, tu n'apprends pas juste une autre langue, il y a aussi des concepts différents. Puis il y a des trucs qui se traduisent pas. C'est comme des jokes en français et en anglais. Tous les jokes ne se traduisent pas.
Exactement.
On est d'accord.
Ouais.
Puis on dirait que de rajouter cette corde-là ou de penser de cette façon-là, ça fait juste agrandir ou de enrichir déjà les pensées que tu avais.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Puis, j'ai cette sensation-là. Pas juste avec les autres pays, mais vraiment quand je parle avec quelqu'un. Puis tu sais, qu'est-ce que je viens de me rendre compte entre le grec puis le français? Il y a beaucoup de concepts que moi, je ne comprenais pas parce que je vivais dans un monde anglophone ici. Mais ces concepts-là, je ne sais pas si c'est à cause c'est européen, mais ils marchent en anglais puis en français, comme ça se traduise bien, mais pas français-anglais.
Ouais.
C'est intéressant, ça, parce que tu aurais pensé, OK, ils sont plus proches ici. Ça, mais non, il y a plein de choses que c'est plus facile de faire la connexion entre grec puis français, la langue, la manière grammaticale de dire des choses puis des pensées que tu vas amener dans une conversation, que tu ne peux pas faire anglais-français.
Non, c'est fou, hein? Ouais, non, je sais. Puis l'albanais, c'est un autre game, là.
Est-ce que tu connais un peu?
Ben, je connais Atinamir, puis quelques expressions là, vraiment courtes, là. Mais je ris vraiment souvent de ma blonde qui est albanaise. Parce que la vie... pas drôle partout, en fait. Mais je fais tout le temps des jokes. Parce qu'elle, elle a vécu la vraie pauvreté.
En Grèce?
Ouais, en Grèce, en Albanie. Les autres, c'était des immigrants illégaux. Ben, pendant un bout de temps, il fallait qu'ils payent genre chaque année une couple de mille pour qu'ils puissent rester dans le pays. Puis, mais elle a comme connu la vraie pauvreté qu'on connaît pas tant ici. Comme des fois, elle me pose des questions. Genre, à quel âge tu as eu ta première laveuse? Je comprends pas ta question. Quel âge t'avais quand t'as eu ta première laveuse? Puis, j'ai toujours eu une laveuse. OK. Ben, pourquoi toi? Ben, dis-moi, j'avais, mettons, 14 ans.
Ouais, j'étais dans la rivière, puis des choses comme ça. Ouais, ma mère aussi, ouais.
Oui, puis les photos. Elle est née en 90. Les photos de sa jeunesse sont en noir et blanc. Elle n'est pas née en 1942.
C'était la même affaire pour certaines personnes.
C'est le vrai. Ouais. À un moment donné, une année que ça, c'est l'année qu'ils ont juste mangé du pain.
Ouais. Non, je sais à cause de ma mère, les histoires de ma mère. Puis elle,
ta mère vient d'où? Elle est grecque.
Grecque, ouais. Dans le village là-bas, c'était la pauvreté, pas d'électricité. C'était vraiment des vraies affaires, la pauvreté extrême. Mais pour eux, ils connaissaient rien d'autre. Alors, quand ma mère me parle de ça, elle dit, tu sais pas comment c'était, mais on n'était pas comme fâchés ou tristes. C'est ça, la vie. Tout le monde était comme ça.
Mm-hmm.
Tu sais, puis...
C'était comme ça.
C'était comme ça.
Oui, je sais.
C'est bizarre.
Fait que moi, je fais vraiment beaucoup de jokes avec ça. Des fois, je dis aux gens que je rencontre la première fois qu'ils viennent chez nous, je dis, bonjour, et je vous présente ma femme de ménage.
Puis tu dis, j'ai mal à la comment... Est-ce qu'elle rit?
Oui, pour... Je ferais pas ça si elle avait pas un bon sens de l'humour. Évidemment, elle a fait des jokes sur moi constamment. Elle me ramasse.
Elle parle anglais avec toi?
Elle parle anglais. On parle anglais. Ouais.
Elle a-tu un accent en anglais?
De moins en moins.
C'est
cute? Elle prend des cours. Oui, c'est cute.
C'est cute, ouais.
Mais elle prend des cours pour perdre son accent parce qu'elle est comédienne.
Oh, ouais?
Ouais.
Oh, ça, c'est. Oh, OK, ça, c'est une fucking pairing fantastique.
Oui, ben oui. Oh non, c'est là, on s'entend très, très bien.
OK. Puis toi, t'as décidé, OK, maintenant, c'est pour ça que tu habites là-bas. Ben, moitié de...
Ouais.
Parce que tu veux pas laisser ta femme, c'est tout à fait normal.
Ben oui, c'est ça. Puis là...
Elle vient-tu ici des fois?
Ben ouais, elle vient ici aussi.
Qu'est-ce qu'elle pense?
Elle trouve ça charmant, mais c'est tranquille. C'est sûr qu'elle, elle habite à New York.
Pour une raison.
Ben ouais, c'est ça. Fait que là, c'est tranquille. Mais en même temps, elle aime tous mes amis, elle aime ça, mais c'est tranquille.
Quand tu es sur set,
ouais.
Est-ce que ça t'arrive des fois de te fâcher avec des comédiens?
Ça m'est arrivé, mais c'est rare.
OK.
C'est rare. Je suis quand même quelqu'un qui essaie de pas aller là. Mais ça m'est arrivé. Plus jeune, j'étais un peu plus tendu, mettons.
Mais maintenant, t'es
là,
comme...
c'est whatever happens, ça va, là. Peu importe ce qui arrive.
Moi, j'avais vécu de quoi là... C'était pas l'année passée, mais presque un an. Il y a une série qui s'appelle Désobéir.
Mm-hmm.
J'avais une petite rôle dans ça. J'étais une journaliste. Puis le réalisateur, parce que moi, tu sais, je suis là, je sais, moi, je suis pas un des grands acteurs de cette pièce-là. Alors, moi, je suis là pour tout ce que toi, tu as besoin.
Ouais.
C'est toi le réalisateur.
Ouais.
Alors, il me dit, OK, fais ça à tout le monde, tous les extras de journalistes. Je dis, OK, mais j'étais le seul qui l'écoutait.
OK.
Alors, après, trois takes, il est comme, OK, lui doit être en avant, donne ça à lui. Pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas? Juste écoutez, arrête de faire ça, juste faisais comme lui. Suivez ce gars-là. Puis moi, j'étais comme, j'ai rien fait de spécial. Tu sais, j'essaie de le suivre, mais je regardais les autres, ils prenaient des. Comme il y avait une impulse, non, moi, je vais montrer qu'est-ce que je peux faire. Non, mais juste écoute qu'est-ce que le gars te dit. C'est pour ça qu'il est fâché. Puis je commençais à penser, imagine, ça, c'était quelque chose de petit. Ça, c'était une affaire de 30 secondes.
Ouais.
Imagine un plus grand rôle. Je peux voir le réalisateur qui brise quelque chose.
Mais
qui se fâche. Juste fais qu'est-ce que je te demande.
Mais je pense que la culture a changé parce que dans les années, mettons, 90, 80, avant ça, les réalisateurs, on dirait que ça faisait partie de ta job de péter un plomb puis de crier après tout le monde puis de partir du plateau. Puis tu sais, là, ça faisait partie de la job parce que le monde faisait beaucoup de cocaïne aussi.
Ouais.
Ça aidait pas. Mais ça l'a changé depuis ce temps-là. Puis je pense que la nouvelle génération est comme plus smooth. Là. C'est comme, gars, ça donne rien de se crier après. Là. Ça sera pas meilleur si tout le monde est tendu. Là.
Ça, c'est vrai aussi, mais des fois, tu dois écouter aussi.
Des fois, comme... tu dois écouter, mais t'as des très, très, très bons réalisateurs, comme vraiment bons, qui avaient des caractères quand même très... Mettons comme James Cameron, qui... On s'entend que c'est un génie, ce gars-là. Là.
Ben, penses-tu que lui est fâché sur ça?
Ben, de ce que j'ai entendu, il est quand même un peu dur.
Ouais,
tu sais, Stanley Kubrick qui crie après la comédienne dans Shining. Là,
ouais,
qui,
ouais, pour là, qu'elle commence à être vraiment anxieuse. Ouais,
ouais, ouais, ben il a réussi à être anxieuse toute sa vie après.
C'est vrai?
Ouais, ouais.
Mais, ah ouais, ça c'était extrême, ouais.
Ouais, mais ben, je pense pas que c'est de sa faute, mais en tout cas, je sais pas. Là. Mais tu sais, fait que des fois, oui, il y a certains grands talents qui ont des grosses personnalités, mais je pense qu'il y a moyen de faire autrement puis quand même de faire des bonnes affaires.
Là. Toi, t'es plus chill.
Moi, je suis plus c'est quoi l'expression? C'est comme « I roll with it ».
Ah comme, ouais, comme ça.
Tu sais, okay. You lean into it. Peu importe ce qui arrive, t'essayes. Mais c'est sûr que des fois, c'est plus dur, je trouve, ce que t'as fait que d'avoir un rôle plus long. Des fois, d'avoir un rôle d'une réplique, une action, c'est comme si tout est concentré sur ça. Puis ça met trop d'emphase sur « Hey, j'ai une réplique. Faut que ma réplique soit bonne. » Alors que quand t'en as plusieurs, ben tu as le temps d'entrer dedans.
T'as ton flow, tu peux rentrer dans ton flow. Ouais, ouais.
C'est comme, ouais.
Non, mais moi, je comprends. Moi, j'essaye toujours de... Parce que toi, on va dire toi, ou si tu es quelqu'un qui l'auteur, tu as une vision, mm-hmm. Tu vois. Moi, je suis là pour essayer d'accomplir ta vision.
Ouais.
Je déteste quand quelqu'un dit « ouais, mais… » OK, tu peux dire le « ouais, mais puis on peut avoir… des... » Mais si je te dis « écoute, j'ai vraiment besoin de ça pour 10 secondes. »
Ouais.
Juste essaye-le.
Ouais.
Essaye-le. J'aime pas quand quelqu'un s'ostine juste pour s'ostiner.
Non, ben non.
C'est comme là, tu crées des problèmes pour rien. Alors, quand je voyais ça, j'étais comme… Oh fuck, ça doit être. Tu sais, moi, je suis ici pour une journée.
Ouais, ouais.
Imagine les gens qui doivent être ici pendant plein de jours, puis tu as toujours des comédiens qui essayent de faire leur affaire. Fuck, ça devient frustrant.
Mais en principe, si tu fais bien ta job avant, c'est-à-dire que tu engages du monde qui sont bons, mais pour ce qu'ils sont aussi, puis tu les laisses être ce qu'ils sont à l'écran, ben, ça devrait pas trop. Mais des fois, ça. Je pense que cet été, j'ai failli me fâcher après avec un comédien. Il était super fin, super tout, mais j'ai demandé, ça faisait comme 10 fois là, que j'ai demandé la même chose, puis qu'il faisait pas, là. Fait que là, un moment donné, tout le monde a senti que je commençais à être tendu, là. J'étais moins poli, là. J'ai comme fait, ah, regarde, là, hey, ça fait comme plusieurs fois, je te le demande. Là, fais les dons, voir.
Mais pourquoi pas? C'est ça qui m'énerve. C'est juste essaye-le, pourquoi?
Ben, parce que des fois, le monde, ils sont pas capables. C'est pas dans eux autres. C'est pas la musique qu'ils entendent dans cette réplique-là. Ils l'entendent pas, la musique que tu lui dis, tu sais.
Ouais.
Fait que, c'est ça. Moi, j'avais entendu un truc pour les comédiens. De bouche à oreille, mais le truc, c'était si tu veux être sûr que le réalisateur soit content de ce que tu fais, imite-les légèrement. Fait que si tu prends son. Parce que lui, il vaut la vie par ce qu'il est, tu sais. Fait que forcément, si tu t'imagines lui jouer ça, ça aurait l'air de quoi? Puis là, habituellement, le réalisateur sont contents. Ça a l'air.
Oh, ça, c'est intéressant, ça, c'est drôle.
C'est ce que j'ai entendu. Je sais pas s'il y a des gens qui me l'ont fait, moi, comme quand je suis réalisateur, mais bon.
Tu sais jamais, hein? Maintenant, tu connais leur truc.
Ouais.
Oh, fuck. Puis est-ce que tu écris beaucoup?
Ouais, j'écris beaucoup.
Es-tu capable d'arrêter d'écrire? Ou t'as-tu. Moi, j'ai un problème où j'ai besoin de toujours écrire quelque chose. Mm. Si je termine un projet, ben j'avais déjà deux, trois autres projets que j'avais commencé un peu. Je peux pas arrêter.
OK. Moi, je suis capable d'arrêter. Puis, des fois, j'ai pas le choix d'arrêter, mais c'est deux cerveaux vraiment différents. En fait, il y a trois cerveaux différents, là. Écrire, jouer, réaliser. Trois affaires bien différentes. Ouais. Ça se rejoint à long terme, ça se rejoint, mais à court terme, ça n'utilise pas les mêmes facultés. Fait que je suis capable d'écrire. Quand j'écris, j'écris. Mais dès que je commence à faire d'autres choses, là, ça scrappe tout le projet. Là. C'est comme ça. Mon cerveau d'écriture, il est. C'est parce qu'écrire, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais écrire, c'est pas tant une action qu'un état.
Oui. J'aime que tu viennes dire ça. C'est difficile de décrire à quelqu'un, puis tu viens de le décrire parfaitement. C'est comme si c'est une expérience. C'est pas. Je peux pas décider, j'écris maintenant.
Ouais.
C'est vraiment. Oh, je rentrais dans cette trance, j'ai ça, let's go. Ouais. C'est, ouais.
Puis même quand, tu sais, moi j'avais des blitz d'écriture des fois pour ces gars-là, mettons, OK, là on est en phase d'écriture, les 4 prochains mois, il faut sortir 10 épisodes. Là, la première semaine est rough, là, parce que t'es pas là pantoute, puis là, tranquillement, tu te remets dedans, puis là, t'écris à tous les jours, puis à un moment, il y a des affaires qui sortent, puis si t'arrêtes pendant une semaine ou deux, pendant ce but, là, tu sors.
Recommencer.
Ah, ouais, oui. Ouais. T'es plus dans le mindset, t'es pas là, là. Puis même, une autre affaire, puis j'en parlais avec Sugar Sammy à l'époque, quand on s'entraîne, tu sais, on aimait ça s'entraîner, si on s'entraînait trop, pas capable d'écrire. Meilleur résultat d'écriture quand tu manges de la pizza puis tu vois du coke puis tes scraps. Meilleur résultat d'écriture. Mauvais résultat sur le corps. Meilleur résultat d'écriture. Fait que c'est dur de
gérer tout ça.
Je ne sais pas si c'était ça.
Un peu, parce que moi j'ai perdu beaucoup de poids.
OK. Hey, moi, en tout cas, oui.
Toi aussi?
Oui. Mais on
j'ai perdu beaucoup de poids. Puis oui, j'écrivais plus, je vais dire la vérité, quand j'étais plus grosse, c'est vrai. Mais je pense pas que c'était une corrélation exacte, c'est parce que maintenant, j'ai plus de travail. Je travaille beaucoup maintenant. Okay. Alors, je suis toujours occupé. J'ai quelque chose à faire. Mais il y a quelque chose que quand tu es confortable, ton imagination marche plus.
Ouais.
Il y a quelque chose dans ça. Je ne sais pas si ça fait avec la nourriture, mais c'est vraiment que tu es plus confortable. Mais quand tu es tense, tu travailles beaucoup, ton cerveau, il pense à d'autres choses. Je pense qu'il y a une corrélation. Mais la bouffe, je pense que c'est.
Je sais pas, c'est pas tant une affaire de bouffe qu'une affaire d'être dans son corps versus d'être dans son être ou dans son état, dans d'être connecté à ce qui se passe dans tes idées, tes petites idées tout petites que tu n'entends pas si t'es trop baisé.
Ouais.
Tu sais, écrire des bonnes idées, c'est d'écrire les idées qui sont plus petites, qui sont comme plus subtiles.
Ouais.
Tu peux penser les grosses idées poches, puis là, les écrire, mais c'est de la merde.
Ouais.
Mais c'est ceux qui. Ah oui, ça, il y a quelque chose d'original là, mais c'est fragile, tu sais.
C'est très fragile.
Faut que tu sois à l'écoute de ça, puis pour être à l'écoute de ça, ben si t'es tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de faire toutes sortes d'affaires, ben t'es entends pas ces voix-là. Là. Tu comprends ce que je veux dire?
Je comprends exactement ce que tu veux dire, puis j'essaie de penser, parce que tu parlais de Kubrick, puis je pense à plein de gens qui ont écrit des bonnes choses. Il avait pas de six-pack, il y avait pas d'abs.
Non, mais les auteurs en général, puis toujours en général, puis toujours des exceptions, mais c'est quand même du monde étrange.
Ouais.
Il y a même une étrangeté dans des auteurs. Puis habituellement, il y a un petit côté, c'est pas nécessairement autiste, là, le médical, mais il y a un petit côté que lui... sur le spectre, ou répond étrangement ou des interactions bizarres. Moi, tous les auteurs que je connais sont étranges.
Moi aussi. Non, ben moi je suis déjà étrange. Tous les humoristes sont étranges.
Oui, oui, clairement.
Alors moi je suis habitué. Dans mon monde, tout le monde est étrange.
On est bizarre.
Ouais, même les. Tu sais, c'est quoi la différence, je trouve, avec les humoristes puis les comédiens qui sont juste des comédiens?
Ouais.
On est étrange, mais dans une manière différente. C'est comme si les humoristes peuvent voir qu'eux ils sont étranges puis tout, puis ils sont d'accord avec ça. Mais quand je rencontre quelqu'un qui est juste comédien, juste un acteur, il peut pas regarder puis juger eux-mêmes que « Ah ouais, je suis bizarre. »
Ouais.
C'est ça que je me suis aperçu. Que eux ils sont vraiment plus « OK, tout le monde est bizarre, c'est pas moi. » Tandis que « T'es fucking bizarre.
Ouais, » ouais,
c'est,
ouais, ouais, ouais.
C'est ça que je vois la différence. Ils ont pas le self-awareness comme les humoristes. Les humoristes, ils voient.
Savent.
Ouais, ils savent qu'ils sont autistes.
Ils ont un point de vue sur tout aussi. Puis c'est pour ça qu'ils sont capables d'écrire puis tout ça. Mm-hmm. Les acteurs, puis hey, je travaille plein d'acteurs. Je travaille souvent avec des acteurs, mais tout dépendamment, mais en général, c'est pas nécessairement les personnes les plus je pourrais dire, sans insulter personne. C'est pas les plus intéressants. Non, mais il y a du monde, j'ai des amis proches, acteurs que j'adore, pis tout ça, mais c'est pas le monde challengeant ou le monde qui t'amène ailleurs, ben c'est souvent des auteurs. C'est souvent des humoristes. Ben, des humoristes, c'est des auteurs.
Toutes des gens bizarres.
Toutes des gens bizarres, quoi que les acteurs aussi, ça dépend des acteurs.
Ouais.
Mais je les aime, là, sinon je ne trouverais pas avec.
Mais non, bien sûr. Mais toi, tu me disais que quand. Alors, t'as perdu. Comment t'as perdu du poids?
Moi, ça a changé ma vie. Ben, avec Nick, d'ailleurs, avec ouais. Nick Dorsos, mais ça faisait un bout de temps, j'essayais de perdre du poids. J'ai pris comme 30-35 livres pendant la pandémie. Puis ce qui n'est pas tant que ça, mais qui est beaucoup. Okay? Ouais. Quand même. Puis j'étais
vraiment. Ouais. Tu pesais combien?
Je pesais 210.
OK, à ton max.
À mon max. OK. Okay? Là, je pèse à peu près 180 en ce moment.
Oh shit, OK. Ouais, oui, oui, t'as fait un bon job.
Ouais, mais. Mais il y a comme toute la philosophie autour de perdre du poids qui est de changer ta vie, d'être plus efficace. J'ai réglé des affaires personnelles, des affaires d'émotions. Tu sais, c'est comme un paquet d'affaires pour arriver à être OK, là, je serais pas de focusser sur manger mieux. Puis là, j'ai dit manger moins, bouger plus sur Facebook récemment, puis ça a fait de la merde. Le monde était fâché.
Ah ouais, pourquoi?
Ben, parce que manger moins, bouger plus, ça a l'air que c'est pas ça là, qu'il faut faire pour perdre du poids, même si c'est ça qu'il faut faire pour perdre du poids. Mais...
C'est ça qu'il faut faire, ça que je... Ouais. Ben, pas mais manger mieux. Bien, manger mieux. Bien. Pas, ouais.
T'as perdu combien?
100 livres, 100 quelque
wow!
chose.
Wow! Quand?
Poseidon, c'était vraiment... ça fait un an à peu près, un an et demi.
OK.
Ouais, c'est vraiment...
Tu t'es pas rien repris depuis, à peine?
Non, non. Maintenant, j'ai besoin de faire plus d'exercices parce que je veux avoir un peu plus un corps musculaire.
Ouais.
Mais c'est vraiment ça. C'est...
Qu'est-ce que t'as fait?
Ça a l'air facile. J'ai arrêté le sucre,
ouais.
Puis le pain, les carbs.
That's it.
Je faisais du intermittent fasting.
Ouais.
Mais ça, au début, je faisais même pas ça par exprès. C'est parce que je travaillais, alors j'oubliais ouais. de manger. Mais c'était vraiment ça. Je perdais tout ce poids-là sans faire de l'exercice. Après, j'ai mis de l'exercice dedans. Puis ça, tout était comme arrivé plus vite à cause de ça.
Ah, ouais.
Mais je dis au monde, si tu changes la manière que tu manges, beaucoup de légumes puis beaucoup de viande.
Ouais.
Puis c'est ça. Tu peux manger des fruits, c'est juste éviter les sucres, tu sais, tout ce qui est Coca-Cola, des bonbons. Puis ça change tout, le pain, ça change tout. Ça change. Puis mon cerveau était plus vite.
Ouais.
Je sens mieux. Puis quand le monde te voit, moi je suis sur la scène. Ouais. Alors, si quelqu'un te voit, tu sais, si tu as l'air un peu plus beau, c'est meilleur pour toi, tu sais, ils sont à l'écoute. Mais s'ils pensent, lui va mourir. Une crise cardiaque. Tu veux pas qu'ils pensent à ça.
Mais en tant que gros, t'as comme deux castings de gros. C'est-à-dire, comme pour un performer, là, c'est soit qu'il est gros ou soit qu'il est pas gros. Mais quand il entre les deux, c'est là le pire. Parce que là, c'est comme pas... C'est mieux d'être... Comme humoriste, c'est mieux d'être... Si t'es gros, sois gros.
Sois gros, ouais.
Sois pas dans le milieu.
Ouais.
C'est comme la pire position de grosseur pour un interprète, je trouve.
Mais même pour le casting de... Ouais. Mon agent avant, quand j'étais gros, hein? J'avais... Tu sais, tout le monde... Tu sais, des castings que moi, je n'aimais pas, mais ouais. Je fitais le profil.
Ouais.
Quand j'étais au milieu, tu sais, c'était le downtime, j'avais rien. Puis maintenant, à cause que, tu sais, tu peux me rendre dans plein... d'affaires différentes, puis je peux porter les vêtements. Avant, je rentrais même pas dans leurs vêtements, c'était trop serré, puis tout ça. Imagine, il n'y avait pas des vêtements en pour moi. Tu sais, c'était trop tight. Puis maintenant, ça marche beaucoup mieux. Tu sais,
ben, c'est j'en doute pas. Ouais. Mais t'as un bon casting aussi. Là.
Oui, mais ça n'existait pas avant. Tu sais, maintenant, mais c'est ça. Avant, il est gros et tout ça, mais maintenant, c'est comme, oh shit, il peut faire ça, il peut faire ça, ouais. Il peut faire ça. Mais c'était pas comme ça. Alors, ça m'a ouvert plein de portes aussi,
ouais.
Mais je sens beaucoup mieux, man. Je sens, tu sais, j'aime ça sentir bien dans mon corps.
Ça change tout. Puis, c'est, ça prend une disposition d'esprit puis du temps. Puis, tu sais, moi, j'ai engagé un entraîneur. Fait que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un entraîneur. Mais si les gens qui peuvent le faire, là, je le conseille tellement. Là, ça change tout.
Puis, si tu peux pas, juste au moins
évite. Mieux.
Ouais, mange mieux. Puis, quand je dis mieux, je dis pas de gaspiller beaucoup. Juste évite les choses qui vont te grossir. Puis, les autres. C'est de petit à petit. C'est des petits pas que tu dois faire.
Moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi entre 210. Puis mettons, mon plus bas, ça a été 175. C'est pour ça que j'ai perdu à peu près 35 livres.
Je peux jamais arriver à ça.
Oui, mais t'es plus grand, t'es grand.
C'est pour ça, je suis 6 pieds 2.
Ouais, mais là, ça se
trouve. Non, mais je veux pas. Non, je veux...
190, ton target, c'est quoi?
Maintenant, je suis 220 ou 218. 220,
mais t'es grand. Moi, c'est
ouais, mais j'imagine, j'étais à 330, 300 moins.
Wow. Mais pas wow, on a le droit de peser ce poids-là, mais non, non, méchante, mais, méchante.
Tu sais, qu'est-ce qui est drôle? Beaucoup de gens, ils me voyaient qu'il est gros, mais ils ne pensaient pas que je pesais autant.
Ouais.
Puis, c'est, puis moi, à cause que je faisais ça tranquillement, je ne voyais pas que je perdais du poids.
Ouais.
Puis, c'était l'année passée où on était en tournée avec Mike, il y avait Mike Ouanoir. Puis, je pense qu'on était à Saint-Eustache. Mm-hmm. Puis, il me regardait. Puis, il dit, fuck, tu sais que tu as perdu beaucoup de poids? Puis, moi, j'étais comme, je pense pas beaucoup parce que j'étais en short. Puis, il dit, ouais, peux-tu te peser? Est-ce que tu te pèses? Je dis, non. Il dit, juste fais-le parce que je veux savoir.
Tu pesais pas?
Non, alors, je savais même pas que je perdais du poids.
Wow.
Je le voyais pas. Puis j'avais checké, puis j'étais à 230 quelque chose. Puis j'étais comme, what the fuck? J'étais à 328 ou 30, ça fait quelque
chose. Ouais. C'est incroyable.
Mais tranquillement.
Ouais, mais en temps d'un an.
Ouais.
Mais 100 livres, c'est pas si tranquillement que ça. Parce que si tu perds à peu près 5-6 livres par mois, c'est un bon rythme. Fait que 6 livres par mois fois 10, c'est. Tu sais, non, t'es allé à un rythme. Hey, c'est vraiment bon, sans joke. Moi, j'ai pas le choix de checker la balance. J'ai pas c'est quand je veux, là, je suis comme en maintenance en ce moment. Je veux quand même me perdre une couple de livres. Mais faut que je check à tous les jours.
Puis moi, j'avais peur de faire ça. Parce que si je voyais des flux au début, j'avais peur de perdre la motivation.
Je comprends.
Alors, j'écoute, je veux juste sentir bien. Je vais continuer comme ça. Je vais manger comme ça. Puis je voyais pas.
Wow.
Puis c'est mes vêtements. J'ai des vêtements maintenant. J'ai porté une chemise pour juste pour rire la semaine passée. Puis je dis, oh, je vais porter cette chemise-là. Mm-hmm. C'est comme un enfant qui porte les chemises de son père. Alors, je suis sorti pour acheter des nouveaux. Je dis, c'est impossible. Je peux pas porter ça. J'ai l'air d'un imbécile. C'était trop. Puis je ne pouvais pas voir comment j'ai rentré dans ça parce que j'ai des photos où la même chemise était serrée sur moi. Je dis, comme c'est impossible.
Wow.
Tu sais, tu vois pas quand tu fais ça tranquillement, tu vois pas la différence.
Non.
Ouais, alors, j'ai acheté des nouvelles chemises. Puis. C'était plus cool comme ça.
Moi, je suis passé de large à small. Je portais du large, puis là, je porte du small. Ben, je porte du small parce que j'aime ça un peu tight. Mais non, mais c'est ça qui fit là, dans mes grandeurs.
C'est small maintenant.
Ben, genre 34 de taille à 30, mettons.
Moi, c'était de XXL
tout, c'est incroyable.
À L.
C'est incroyable.
Ouais.
Incroyable. Je sais pas si tu as remarqué. Moi, j'ai remarqué ça. Puis pourtant, je pesais pas autant, mais j'ai remarqué une différence de comment les gens me traitent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les gens sont. Il y a comme.
J'ai des histoires pour toi, c'est moi.
Je te crois, c'est. Ok, mais faut que tu me comptes ça, mais en tout cas, de mon côté, le monde me traite mieux. Soudainement, les filles. Ben, j'avais déjà ma blonde, je suis chanceux, mais tu sais, je sens que là, je deviens potentiellement intéressant. Il y a des filles qui me parlent, qui ne me parlaient pas avant. Puis, c'est ça. Mais pas juste ça, les gars aussi. Il y a
ouais, tout le monde te traite. Ouais.
T'es mieux traité mince.
Mais ouais, le monde te traite différemment. Et ouais. C'est bizarre qu'on fait ça. C'est pas cool qu'on fait ça, mais c'est naturel. C'est dans leur cerveau.
C'est ça. C'est comme ça. C'est vraiment bizarre. Mais moi, je sais. En tout cas, moi, ça a été, c'est ça, gros, un cheminement, puis là, que j'adore, là, j'ai couru un matin, je m'entraîne le soir, je suis rendu addict à workout.
Mais c'est une bonne addiction.
Ben oui, il y en a des pires, mettons, là.
Ah ouais?
Il y a pire.
Est-ce que t'es un gars qui boit beaucoup?
Non.
Moi non plus.
Bon, presque pas.
Ouais.
Rarement. Rarement, t'as-tu déjà bu beaucoup à un certain moment donné ou pas?
Non, c'était jamais pour moi.
Non,
c'était une ou deux fois dans ma vie quand j'étais jeune, parce que je savais pas, mais c'était, je cherche jamais ça. J'aime c'est être sharp.
Ouais.
Puis en plus, j'ai beaucoup d'amis humoristes que eux, ils veulent boire beaucoup avant un set ou juste après.
Ah ouais?
Mais moi, je peux pas. Parce que moi, je veux être sharp, je veux parler avec le monde, je veux avoir mes idées proches. Puis des fois, tu dois dévier. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu dois être prêt.
Ouais.
Imagine si je suis sous, puis je peux pas. J'ai toujours peur. Puis j'aime pas sentir comme ça. J'aime avoir le contrôle de mes pensées. Alors, c'était jamais pour moi.
La première fois, je me suis saoulé, j'avais 26 ans.
OK. C'était pas pour toi, non?
Non, c'était pas pour moi. Puis tous mes amis où je viens de la campagne, mes amis, tu sais, ils tiraient du 12 puis ils buvaient de la vodka ou du Jack Daniels. Non, mais quand il y avait 14-15 ans, sans joke.
Moi, j'ai un ami, Daniel, je vais le nommer. Je me souviens, on était en école secondaire. Ouais. Puis on est allé à la ronde. On avait peut-être 15 ans. Puis je me souviens, il y avait ces petites bouteilles de Jack Daniels. Je ne sais même pas où il les a eues. Puis il buvait. Puis Jack and Coke, Jack and Coke.
Jack Coke puis, à 14
comme,
ans?
C'est ça, on avait 15 ans, man. Ouais. Puis moi, j'étais comme, ah, c'est dégueulasse, c'est pas pour moi. Même le goût, je n'aimais pas ça. Mais lui, il était prêt.
Wow! Ouais. Wow! C'est bien trop ça.
Ah ouais. Des fois, tu trouves du monde comme ça qu'il commence jeune, puis il s'habitue, puis c'est normal. Moi, j'ai même fumé, tout le monde autour de moi fumait, sauf moi.
Mais tout le monde faisait de la drogue autour de moi, comme solide. Tout le monde buvait solide, puis j'étais tout le temps le gars à jeun dans le party.
Ouais, moi aussi.
J'étais tout le temps le gars qui. Yeah, j'avais du fun pareil, puis tout ça, mais je pouvais pas. Je faisais de l'anxiété si je buvais.
Ouais, moi, je voulais pas être dans une situation où.
Ouais.
C'est-tu le contrôle que j'ai peur de. C'est juste que je veux pas sentir comme ça, je veux être normal.
Ouais.
Mais
là, t'as quel âge?
Là, j'ai 36 ans.
36 ans. Puis même, parce que moi, à 40, bon, j'ai commencé à voyager.
Ouais.
J'ai commencé à boire. Pas que je bois mais beaucoup, mais c'est-à-dire qu'il y a une espèce de. Il y a une espèce de relâchement. Hey, c'est tellement le fun, la quarantaine, là. C'est tellement l'âge le plus fun. Puis je sais pas que 50 va avoir l'air de quoi, là, mais la quarantaine, c'est de baisse.
Oui, parce que t'as déjà ta carrière.
Ouais.
Tu sais qu'est-ce que t'aimes.
Ouais, mais aussi, t'apprends à t'en calisser. Puis ça c'est comme
bon.
Un pouvoir magique, man. Hey, je m'en calisse. C'est comme, je m'en crisse, là. C'est comme l'autre, t'es, mettons, dans ton char, là, puis il y a une madame qui t'a vraiment fâché après toi, là, parce que t'es allé trouver, t'as pas fait ton stop à bonne place, ça, là. Hey, je m'en crisse.
J'ai d'autres pensées, moi, d'autres choses.
Bonjour, madame, ou bon, moi, monsieur, peu importe, c'est pas grave. Là, je veux pas blesser des gens. Si je fonce dans quelqu'un, je m'en crisserai pas.
Ah ouais.
Mais il y a comme un paquet de situations là, qui comme deviennent moins graves. Ça, c'est le fun.
Puis tu penses que tu as appris ça à cause de ton âge ou à cause que tu as commencé à voyager puis voir plein d'autres choses?
Ben c'est comme un mélange, tout en même temps. Fait que j'ai commencé à boire un peu plus, je dirais. Mais plus pour moi égale vraiment pas beaucoup pour la moyenne des gens.
Ah ouais.
Mais de pas avoir peur d'être sous, mettons, ça m'arrive. Ouais, ouais. Là, c'est comme OK, fine. Là, avant, j'avais presque peur. C'est comme l'anxiété de faut que je me contrôle. Tu sais, peu importe, là, c'est correct. Là, je sais que quand je suis sous, je parle vraiment, vraiment beaucoup. C'est ça mon side effect.
Puis le trip à Miami, c'était-tu le premier grand, comme, on va dire, les premiers grands vacances que tu as pris hors Québec de ta vie?
J'en avais eu d'autres, mais à chaque fois que je prenais des vacances, mettons avec mes blondes du passé, mettons, j'allais au Mexique pendant une semaine, genre 7 jours, d'un tout inclus, OK? Ben ça devenait comme une pour que ça soit intéressant pour moi, ça devenait comme une compétition de comment relax que je pouvais être. Fait que c'était pas vraiment relax. C'était comme, OK, je vais lire un livre toute la journée, je vais passer comme 4 heures sur la plage, puis je vais tellement travailler fort, être relax.
Ouais, c'était le contraire.
J'avais besoin d'un espèce de but. Tout était comme goal-oriented. C'était tout un... J'avais besoin d'un début là, je pouvais vraiment être relax en ce moment. Là.
Tu vas là-bas puis t'as pas de plan, t'es comme, OK, on va sortir.
Oh,
on va,
ouais, ouais. Là, je m'en calisse. Ça, c'est le fun.
Ça, c'est. Ouais. Moi, la première fois où j'avais. Parce que, tu sais, toute ma vie, j'étais à Montréal. Je travaillais pour une compagnie. On faisait. Dans le temps, c'était des applications mobiles. Parce qu'au début, j'étais dans une compagnie. J'étais à EA, je faisais des jeux vidéo. Puis après ça, tu sais.
Hein?
T'as fait
des jeux vidéo?
Ouais, moi, je travaillais dans les jeux vidéo de 2006, je pense, 2006, jusqu'à comme 2014.
Hein? T'as travaillé sur quoi?
Ouf, plein de jeux. FIFA, fucking Fight Night, Rock Band. J'avais des jobs différents. Quand j'avais commencé, je commençais comme testeur. Après, je travaillais dans le développement. Je devenais une development coordinator, alors la coordination de développement avec les équipes et tout ça. Puis là, c'était le max que j'avais atteint. Ils ont fermé leur porte ici, EA, dans le temps. Alors, j'ai changé de carrière. Je commençais à travailler dans les jeux, dans les applications mobiles.
Okay.
J'ai fait des cool applications avec mon équipe. Des applications pour Red Bull, pour Nokia d'antan, plein de choses, Twitter. Puis à cause de ça, j'ai eu la chance d'aller comme en 2013, on avait fait une application pour Twitter, 2 applications. Puis je suis allé au Hollywood Film Awards puis au American Music Awards, tapis rouge, tout ça. Ouais, ouais, parce qu'une des applications, c'était que les fans envoient à leur chanteur préféré, on va dire, des images qu'eux, ils ont dessinées de eux. Ouais. Puis sur le tapis rouge, il voit ça, comme on va dire Taylor Swift, « Oh shit, j'aime ça », puis il le signe, puis il le tweet back à leurs fans qui ont fait ça. Okay. C'était incroyable. Hollywood Film Awards, c'était presque la même chose, mais c'était juste une autographe que tu fais une réplique à des fans qui t'ont envoyé des choses. Alors, c'était cool, ça. Alors, j'ai rencontré plein de gens. Puis pour moi, imagine, la première fois où je suis allé à Hollywood, à Los Angeles,
ouais,
c'était pour aller faire le tapis rouge au Hollywood Film Awards,
okay,
en 2013. Alors, pour moi, c'était complètement un choc. C'est d'être là, puis de voir tout ça. Puis je commençais à voir le monde différemment. J'ai dit, oh shit, tu peux atteindre certaines choses parce que, tu sais, moi, de nulle part, de Parkex, je suis ici maintenant.
Ouais.
Ah, OK. Alors, ça m'a ouvert beaucoup l'esprit, ouais, puis le cerveau de voir que, shit, on peut faire. Puis après, 2 mois plus tard, tu dois revenir, on va être au American Music Awards.
Ouais.
Là, j'étais comme, oh fuck. Puis là, c'était plus excitant parce que là, j'ai rencontré plein de grands musiciens où j'aurais jamais pensé d'être dans la même salle, de parler, de les niaiser.
Wow.
Ouais, ouais. Alors.
C'est non, mais cool.
Ouais. Puis je faisais des open mic. Je commençais le stand-up en 2012.
OK.
Alors, je faisais ça en même temps jusqu'à 2017. Ou 2017 où j'ai décidé d'arrêter tout puis focusser spécifiquement sur l'humour puis le podcasting.
C'est incroyable.
Ouais.
C'est donc bien cool, ça.
Ah, mais
c'est vrai que ça ouvre l'esprit. Hey, une question. Moi, c'est une question pour toi.
Mm.
T'as-tu écouté les hearings sur les UFO?
Pas juste les hearings. J'ai plein d'informations additionnelles sur ça. Un de mes amis, Chris Ramsey, je ne sais pas si tu connais, il a une grande chaîne YouTube à 7 millions. C'est un grand magicien. Il est très, très connu, très bon gars. Il est ami avec moi puis Mike. Il est bilingue, by the way. Le monde pense qu'il est américain, mais il habite, je ne vais pas dire où, mais il habite à Québec.
OK, wow.
Il est très, très cool. Lui, il est tombé hard dans ça parce que lui avait beaucoup de vidéos de ses amis puis de lui parce qu'il voyage beaucoup, des choses, des avions. Toutes les choses que tu vois comme les tic-tac, whatever, lui a des vidéos de son cell qui a déjà vu des choses comme ça. Alors lui, était vraiment all-in, ça fait longtemps. Puis avant le hearing, il est allé faire un podcast avec Jeremy Corbell.
OK.
Tu connais c'est qui?
Le nom, oui.
Il a même parlé dans les hearings. Lui, c'est un des gars qui était dans ça. C'est le gars qui a amené Bob Lazar à Joe Rogan.
OK.
Ça fait des années qu'ils parlent au monde et ils disent il y a quelque chose ici. Il y a des gens du gouvernement qui cachent plein de choses. Il y a des whistleblowers, tout ça, puis personne ne voulait l'entendre. Puis maintenant, tout le monde est comme à l'écoute. Ah ouais, qu'est-ce que t'as? Mais oui, j'ai vu les hearings. Puis il y a plus d'informations qui va sortir apparemment de qu'est-ce qu'il me disait, Chris. Ils font ça dans des étapes maintenant parce qu'ils pensent que le
c'est
monde
too much
va être
en même temps.
Too much, mais personne. Mais, c'est comme si tout le monde s'en fout.
Mais moi, c'est ça. Moi, en fait, c'est ça le point le plus important.
Ouais.
Tout le monde s'en fout.
Ouais.
Les médias ont couvert un peu. Moi, dans ma tête, j'ai tweeté ça hier, comme il y a 2 jours, je pense. J'ai tweeté pourquoi c'est pas sur la page couverture de tous les médias du monde. Puis on dirait que ça passe vraiment dans le beurre.
Puis
on
c'est drôle parce qu'une des questions était. Qu'est-ce que vous avez trouvé? C'était juste des navettes.
Ouais.
Elle dit, oui, on a découvert des navettes, ça, on a ça. Mais on a même découvert des personnages, des personnes, on va dire, qui ne sont pas humains,
ouais,
qui étaient morts, puis d'autres qui étaient vivants, puis on avait des communications avec eux. Puis personne ne parle de ça.
Personne.
Ça, c'est fou!
Je sais, personne ne parle de ça. Puis là, je me demande pourquoi est-ce que les gens. Parce qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Fait que, tu sais, on n'a pas de réel. C'est tout des témoignages de personnes qu'on écoute. Mais c'est quand même au Capitole de Washington. C'est quand même. Tu sais, on n'est pas là sur Reddit. On n'est pas sur 4chan.
Ouais,
on est comme. C'est quand même le gouvernement américain qui. Tu sais, c'est une grosse affaire. Puis on n'entend zéro parler. J'ai tweeté ça. Puis je pense que c'est Michael Jean. Michel Jean, en fait, pas Michael, Michel Jean qui a dit, qui m'a dit, fais tes recherches en me disant que je suis un conspirationniste juste pour avoir.
Fais tes recherches,
au Capitole de Washington, c'est pas quelque chose d'obscur. Fait que ça a l'air que les gens, de ce que j'ai compris, le monde, vu qu'il n'y a pas de preuves tangibles, ils embarquent pas tant, mais c'est comme huge. C'est gros, vraiment, vraiment gros, puis le monde s'en calisse. Ceux qui ont tous 40 ans.
Non, mais c'est fou. Je pense que c'est à cause des médias aussi, la manière ou laquelle ils ramènent ça. C'est comme, ils parlent pas vraiment, ils disent pas comment c'est incroyable ça. Puis c'est incroyable.
C'est incroyable.
Puis tout le monde attend que les médias leur donnent une opinion. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est mauvais. C'est comme ça qu'on vit maintenant. Alors, si eux, ils te disent pas, hey, ça, c'est incroyable.
Ouais.
Le monde pense pas que c'est incroyable, mais honnêtement, ça, c'est objectivement fou.
C'est fou!
D'avoir ces gens-là, puis c'est pas n'importe qui. Si tu fais tes recherches dans ces gens-là, deux de ces généraux militaires, ils bien respecté, bien... Même notre gars ici, on avait un gars ici au Canada, le ministre de Défense, pendant des années. Mm. Maintenant, c'est un vieux gars. Il avait fait des meetings, puis des conférences, puis il parlait de... Oui, il y a plein de races extraterrestres. On est en contact avec eux, les Américains aussi, je suis sûr. Je n'ai pas d'évidence tangible, mais d'autres pays, c'est sûr qu'ils ont un contact avec eux. Puis lui, il était en charge de nos défenses pendant des années, puis c'était cool. Puis dès qu'il parle de ça, c'est pas crédible. Mais il était crédible quand il défendait le pays. C'est complètement...
C'est complètement débile. Puis je dis ouais. pas que...
Je dis même pas que c'est vrai.
Moi non plus.
Parce que je sais pas, j'ai pas vu, mais je veux dire, on devrait le discuter.
Hein. Un peu, parce que c'est tellement gros, puis il y a comme plein d'informations de partout, puis il y a comme plein de vidéos. Tu sais, il y a des nouvelles vidéos de militaires, puis tout ça, je disais, à un moment donné, est-ce que tous ces gens-là, ou est-ce que les choses qu'ils voient, finalement, c'est autre chose, je sais pas. Mais la conversation publique, elle n'a pas de temps. Pour ce que c'est. C'est comme, mon Dieu, ça répondrait à tellement de questions. OK, il y a des êtres d'ailleurs.
Ouais.
Peut-être.
On n'est pas tout seul.
On n'est pas tout seul. Hey, c'est comme une question fondamentale de l'être humain. Puis là, on est à Washington, le gouvernement américain fait une enquête publique. Puis, mais on n'est pas tant intéressé. On est plus intéressé à Barbie. Puis.
Tu vois comment on est stupide maintenant?
C'est fou, hein?
Ouais. Moi, je dis le même. J'ai monté sur la scène, puis je parlais de ça. Je dis, est-ce que vous avez entendu? Pas? Ouais, non. Si personne ici dans la salle, personne veut parler de ça?
Non.
C'est incroyable.
Je trouve ça incroyable. Je sais pas ce qui va arriver avec ça, puis j'espère que c'est pas juste une gang de menteurs, tout le monde, qui est quand même dans l'ordre du possible. On sait
ouais,
pas.
Ouais, tout est possible, ouais.
Mais semble, ça commence à être. Ça commence à être très, très, très grand public pour. Pas qu'on en parle plus que ça.
Tu sais qui parle de ça, ça fait des années? Georges St-Pierre.
Puis, ah ouais?
Ouais, mais il adore ça. Puis je pense qu'il avait dit sur Rogan qu'il avait vu quelque chose quand il était jeune, si je me rappelle bien. Puis j'ai vu ses stories. Il était avec, pendant la fin de semaine, avec Bob Lazar.
Mais Bob Lazar, tu sais, que j'avais vu son documentaire, en tout cas, un documentaire sur lui. Tu sais...
Il y a plein de choses.
C'est étrange.
Oui, je dis pas que c'est lui la vérité. Je veux juste dire que lui, c'est un grand gars dans ça.
Il connaît.
Puis, ouais, alors, Georges St-Pierre est vraiment intéressé dans ça.
Ouais. En tout cas, je sais pas. J'ai hâte de voir la suite. Si jamais il y a comme d'autres hearings ou d'autres informations, c'est incroyable. Moi, des fois, c'est quoi ma théorie? Ça fait genre 50 ans qu'on fait des films d'OVNI ou de juste pour nous préparer.
Le monde dit ça.
Hein? Que c'est comme là, on est prêt. Notre cerveau est tellement prêt qu'on s'en calisse.
Mais il y a l'autre affaire qui me fait peur. Parce qu'il y avait, je pense, Poseidon, tu peux chercher ça. C'était-tu Operation Bluebeam ou Project Bluebeam? C'était, il parlait de faire un événement dans le monde. C'est des documents militaires américains. C'est des declassified documents. Mm-hmm. Il voulait faire quelque chose intense pour rassembler le monde. Puis, une affaire qu'il avait discutée, c'était une invasion des extraterrestres qui est faux, ouais. Que c'est créé par eux. Alors ça me fait toujours peur, parce que l'autre chose qui parlait de ça, c'était de... il disait, OK, on va avoir de la technologie où on peut transmettre une image, où en Amérique du Nord, ça va être Jésus, ça va être Mohammed, tu sais, dans le Moyen-Orient, whatever. Puis on va parler au monde, puis ils vont penser que c'est leur Dieu qui revient pour qu'on puisse unir le monde. Mm. Puis dans le temps, dans les années 80, ouais, t'es comme, c'est stupide, tu peux pas faire ça. Mais maintenant, on a déjà cette technologie-là où on peut faire ça si on voulait, ouais. Vraiment. Puis l'affaire qui est plus possible, c'est avec les sons. Je sais pas si tu connais la technologie.
C'est moi, ça?
C'est toi?
Oui, c'est moi, mais comment?
Tu connais-tu la technologie d'envoyer des sons à tes oreilles, comme directement à toi? Je sais pas c'est quoi le nom, mais Poseidon, tu peux chercher ça. Ils ont même utilisé pour des pubs à New York. À New York, il y avait un grand pub pour une émission sur A&E. C'était des maisons hantées. Mm-hmm. Puis quand tu étais à l'autre bord du rue, puis tu regardais, t'entendais comme « Oh, they're here », des choses comme ça. Hein? Puis les personnes à côté de toi, pouvaient, si tu n'es pas dans cet endroit-là, ils n'entendaient pas hein? Ça. Alors, ils étaient comme « T'es-tu fou ?» Puis après un certain moment, eux ont sorti pour dire non, c'est juste une pub. Comme, parce qu'il y avait des gens qui étaient comme, je suis-tu fou?
Ben oui.
Puis le militaire américain, apparemment, ils ont même testé ça quand ils se battaient contre ISIS.
Ouais.
Ils ont fait ça à des militants pour qu'ils pensent que Mohamed ou Eve leur parle. Ouais.
Ça a-tu marché?
ça m'a... Ouais, le monde, c'est comme, what the fuck? Ils pensaient que c'était vraiment... Wow. Ouais, alors tu peux... Imagine, maintenant, toi, t'es comme, t'entends pas ça? Puis je suis comme, non. Honnêtement, non. Wow. Puis toi, t'entends... Alors, s'il voulait, il peut faire des choses comme ça pour nous... Tu sais, nous... Je sais pas c'est quoi... C'est pour nous tricker, mais je sais pas pourquoi. Mais maintenant, parce que le monde est comme déjà assez ensemble à cause de l'Internet... Mais j'ai peur que c'est ça. C'est juste une psy-op. C'est juste pour dire, ouais, il y a des extraterrestres pour qu'on pense qu'ils vont venir nous envahir.
Pour qu'on décide,
OK, on a un gouvernement. Alors, j'ai peur qu'on va se faire fucker. Mais en même temps, moi, je crois que l'univers est bien trop grand pour qu'on soit tout seul.
Ah, mais c'est sûr. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Ça n'a pas de sens. C'est infini. À un moment donné, il y a une autre planète à quelque part. Mais la grosse question, c'est... Est-ce qu'ils sont capables de se rendre ici?
C'est ça. Sont-ils plus avancés que nous? Parce que nous, imagine, on a plein de technologies. Et la dernière, on va dire, les dernières 100 ans, qu'est-ce qu'on a fait 100 ans? Imagine quelqu'un qui avait 5000 ans en avance de nous. Qu'est-ce qu'il peut faire?
Ouais. 5000 ans.
Ouais. Puis, ils disent que c'est pas... je sais pas si c'est vrai, mais ils disent qu'apparemment, c'est pas des extraterrestres comme d'une autre planète ici. C'est interdimensional beings. Okay. Alors, c'est une autre dimension.
Ouais. Ce qui ferait du sens, ultimement.
Mais ça, c'est fou. On commence à parler d'autres dimensions qu'on peut avoir des contacts avec. On peut comme nous rendre ici d'une autre dimension. Alors, nous, est-ce qu'on peut rentrer dans une autre dimension aussi? C'est fou. J'adore ça, c'est vraiment incroyable.
Des fois, tu trouves pas ça louche que nous, moi puis toi, puis Poseidon, puis on vit tout dans un moment que tous ces changements-là, en même temps, dans la période de vie qu'on est dedans. C'est-à-dire l'arrivée d'Internet, tu sais, mettons, dans le dernier 100 ans, là, c'est énorme les changements, OK? Énorme. Puis en plus, il y aurait les extraterrestres là-dedans, finalement, il y a des extraterrestres. On est comme dans le meilleur blitz de l'humanité. Parce qu'après ça, les découvertes, une fois qu'on a découvert là, les affaires principales, après ça, il va en avoir moins, là. Ouais. Les ordinateurs, ça va plus vite, mais à un moment donné,
On va juste augmenter,
on va arriver, mais tu sais, la robotique, de mettre une puce dans ta tête, que tu es capable de faire tout ça, les Google Glass, Apple, comment ils s'appellent?
Ouais, c'est quoi le nom d'Apple? Mais je sais, le Google Lens, puis Apple, les nouveaux lunettes qui vont sortir.
Moi, genre ça, qui est pareil comme le film avec Tom Cruise. Tu sais, comme un paquet de technologies qui sort pendant que nous autres, on est là. Puis c'est comme si on est dans une courbe qui va ralentir à un certain moment donné, puis avoir d'autres problèmes, là, des surpopulations, whatever, peu importe.
C'est même pas ça. Moi, je pense que c'est l'énergie. On doit trouver une manière d'avoir d'énergie vraiment pure.
Mais même ça, ça s'en vient.
Ouais, c'est l'uranium.
Ouais, ou de capter le soleil, ou de capter pareil comme les champs électriques. T'sais, dans le sens que même ça, on est en train de figurer. T'sais, pour vivre, il y a plein de scientifiques en ce moment qui font des recherches sur comment vivre plus vieux.
Ouais.
Comment vivre plus vieux. Puis très bien, même un gars qui a l'air un peu étrange, là, qui c'est un millionnaire, multimillionnaire.
Avec le sang?
Ouais, qui fait des affaires, qui fait des traitements tous les jours pour voir à quel point il peut.
Ouais, on parle du même gars. Il faisait des transfusions avec son fils.
Je pense, ouais. Il est comme super cut, là. Mais il a l'air weird, mais c'est pas grave.
Ouais, il a l'air weird.
Ouais, il a l'air weird, mais il a comme 48 ans, puis il a le corps comme s'il avait 31, là. Mais tu sais, c'est pas si incroyable que ça pour le moment.
Si tu manges bien, puis tu exercices, là, tu fais des exercices. Mais lui, ça va être le type de personne que si on peut transmettre notre conscience dans un robot, ça va être lui le premier gars.
Ouais, c'est sûr. Mais tous ces changements-là qui étaient impensables avant arrivent tous en ce moment.
C'est fou.
C'est fou, là. Quand tu prends du recul, tu dis, aïe, aïe, ce 100 ans-là, là.
C'est un peu fake. C'est comme si tout ce qui est venu avant nous, c'était pas vrai. C'est comme, on est là, on fait partie d'un grand show.
Mais moi, des fois, ce que je me dis, l'autre théorie qui est basée sur rien puis appuyable d'aucune façon par rien, c'est que tout ce qu'on écrit, mettons les Jules Verne, faire le tour du monde en 80 jours, après ça, le Tintin, aller sur la Lune, après ça, finit par arriver. Fait que tout ce qu'on pense finit par arriver. Fait que c'est comme si je sais pas de quelle façon, mais une espèce de qu'on contrôle potentiellement la matière,
manifestation.
Une manifestation, juste que collectivement, on pense des affaires, on sort des films de ça, puis à un moment donné, ça finit par arriver d'une certaine façon, tu sais.
Mais les anciens Grecs, ils disaient ça, tu sais ça? à propos de l'imagination.
Mais
je veux dire, il disait à propos comme qu'il y avait une autre dimension, la dimension ici de ton imagination, parce que ça commence là, ça n'existe pas ici.
Non.
C'est quelque chose qui n'existe pas, mais tu peux le sortir d'ici,
ouais,
puis le rendre
réel.
Réel dans ta réalité.
Ouais.
Ouais, c'est... Mais alors, il y avait ces concepts.
Mais si, comme société au complet, tu sais, on est allé sur la Lune, là, on s'en va sur Mars. Le voyage dans le temps, qui est une idée complètement
absurde,
commence, tu sais, avec la physique quantique, puis avec toutes sortes de... Comme le monde commence à... Je pense qu'ils ont réussi à envoyer comme un électron dans le temps, là, comme 5 minutes avant ou 5 minutes après. Tu sais, semble, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi.
Ce qu'ils ont fait, c'était du quantum entanglement, ouais, récemment, que ça m'impressionne, puis je comprends ça vraiment à un niveau minimal. Comme
ouais,
minimum.
Ouais.
Mais c'était vraiment qu'il peut prendre deux atomes, il les connecte, ils sont entangled, puis si un, tu le mets à l'autre bout de l'univers,
ouais,
il est affecté par les résultats de qu'est-ce que tu fais à l'autre.
Ouais.
Ce qui rend les possibilités infinies.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça, teleportation, tu peux faire plein d'affaires avec ça.
Plein d'affaires.
C'est incroyable, mais je ne sais pas comment ça marche. J'écoute les détails, je te parle de ça, mais c'est quelque chose que j'ai du trouble à comprendre. J'ai de la difficulté à comprendre.
Ben, c'est comme la physique super avancée, mais on dirait que tous des problèmes qu'on pensait même impossibles à aborder, là, tu sais, comme le voyage dans le temps, c'est quelque chose que tu peux même pas, c'est juste de la fantaisie. Mais là, tranquillement, il y a des bribes d'informations qui fait que peut-être que dans 100 ans, 200 ans, on va être capable de voyager dans le temps. Je ne sais pas que on va y arriver, peut-être qu'on n'y arrivera jamais.
Mais il y a la théorie que c'est pas possible parce que si c'était possible, on serait déjà revenu du futur.
Ben, peut-être que c'est ça qu'on voit dans le ciel en ce moment.
Ouais, ou... Oh, ça, c'est un autre concept, man. Tu vas rentrer dans ça, c'est cool aussi. Mais il y a une autre, quelqu'un avait parlé de ça, ils disent, ben, ça se peut être que on peut juste retourner au moment où on avait créé, parce que la manière où tu dois te rendre, peut-être c'est comme tu as une navette, ou t'as mm-hmm, pas des rues,
non,
on va
non,
dire.
Non.
Alors, on va dire que la découverte va se faire en 2050. Mais de 2050, là, on peut retourner jusqu'à 2050 du futur. Il y a même ce concept-là. Neil deGrasse Tyson, il parlait de ça, ouais, aussi. Il dit, oui, ça, c'est une possibilité. Ou les autres dimensions, il y a une autre forte possibilité que ces extraterrestres sont les humains de l'année 5000. Il y a plein de possibilités. Ça, c'est cool. Ou même le monde qui disait, tu sais, le monde religieux, oh, c'est des démons, c'est des anges. Peut-être tout ce qu'on pensait, c'était des démons, c'était des extraterrestres.
Mais tu sais, l'image classique des extraterrestres qu'on a, c'est comme du monde gris avec des gros yeux, puis filiforme, puis ils n'ont pas vraiment de sexe, puis tout ça. Fait que dans le fond, tout ce qui en ce moment, les LGBTQ, ils ont comme raison.
Ouais,
On s'en va tout sexless. Que ça n'a plus d'importance à un certain moment donné.
Ouais, j'avais une conversation à propos de ça. Je dis, ah, c'est drôle que les extraterrestres sont là.
Ouais.
C'est comme s'ils nous montrent notre futur si on continue vers il n'y a pas de sexe, il n'y a pas rien, whatever. On continue. Tu sais jamais. Ouais.
Mais ils n'ont vraiment pas de tonus. Il y a pas des, je me demande s'il y a des extraterrestres douchebags, genre le Laval avec qui s'entraînent.
Ou on les voit pas, peut-être parce que tout le monde est décrit comme ça. C'est juste une soute. Ils ont des testicules, mais on les voit pas. Tu sais, on sait jamais.
Ou c'est peut-être qu'ils ont pas de jambes, mais c'est juste deux longues testicules.
c'est juste un grand pénis avec des yeux.
C'est peut-être juste ça.
D'une autre planète.
C'est ça qu'on savait pas. Les filles, c'est des ronds.
Ouais, ouais.
C'est vraiment binaire, là, solide. Là.
Mais t'as-tu vu les vidéos de ces navettes et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est quand même incroyable.
C'est incroyable. Puis je pense que c'est tellement incroyable que ça reste de la science-fiction, que ça reste comme, OK, il y a ça, j'ai aucune idée quoi faire avec ça, puis j'aime autant que mon cerveau passe pas de temps à essayer de décortiquer ça. Tu sais, c'est comme, moi, je faisais de l'anxiété dans ma jeunesse, là. Puis...
T'avais-tu une raison ou c'était général?
Général. Je faisais de l'anxiété, j'ai eu des gros problèmes d'anxiété, mais j'en ai plus maintenant, mais jusqu'à 30 ans, là, j'avais vraiment des crises d'anxiété. Puis je savais même pas c'était quoi de l'anxiété, honnêtement. Il y avait pas Internet tant que ça. L'Internet commençait, tu sais, quand j'avais 15-16 ans, c'était comme, Puis peu importe, mais il y a une anxiété que j'avais, puis c'est pour ça que j'aimais la ville, c'est que ça m'empêchait de regarder le ciel, parce que des buildings, des maisons, tu sais, c'est pas comme en campagne que t'as un champ. Parce qu'à chaque fois qu'on regarde le ciel, qui est 50% de notre vue, c'est tout ce qu'il y a en haut. pour moi, c'est un gros point d'interrogation. C'est comme, aïe, je regarde l'infini, c'est au-dessus de ma tête. Il y a 1 milliard de questions possibles. Puis moi, je vis avec ça, puis je m'en vais à l'épicerie, puis tout est correct. Puis pourtant, je l'ai dans la face à quel point que ça fait pas de sens qu'on soit ici. Là, je suis plus le même aujourd'hui, je m'en calisse.
Ah ouais,
ça, ça fait du bien. Mais sauf que pendant longtemps, ça me faisait même l'anxiété. Quand j'avais des crises d'anxiété, je pouvais pas regarder. J'aimais pas ça des fois me promener dehors en auto. J'aimais pas ça être dehors. Puis j'étais confronté à trop de questions en même temps. C'est comme, oh
ça,
mon
ça m'arrive Dieu. Encore. Moi, je suis pas arrivé à ton niveau. Puis je t'admire, puis j'aimerais arriver à ton niveau parce que j'ai encore des crises d'anxiété. Puis des fois, tu viens de décrire quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai pas de raison. Ouais. Tu sais, des fois, tu as une raison, que tu sois anxieux, puis tu sais c'est quoi. Moi, j'ai encore ces crises-là où j'ai pas de raison, puis je commence à sentir anxieux, puis je sais pas c'est quoi, puis je déteste ça. Mais j'essaie de le manager un peu.
Mais moi, il y a quelqu'un qui m'a expliqué l'anxiété. En fait, j'ai commencé à avoir des crises d'anxiété à 16 ans. J'avais aucune idée c'était quoi. Je pensais juste en train de virer fou. Puis j'ai eu ça pendant plusieurs années. J'ai même pendant quelques années pris la médication. J'ai même.
Ça t'a aidé?
Oui, puis non. Ça l'a aidé momentanément, mais c'est devenu un problème après. Là, ça fait depuis. Ça fait 30 ans que je prends pas de médication. Ouais. Ça va bien.
Moi, jamais.
Ben, ça. Mais il y a quelqu'un à un moment donné qui me décrit l'anxiété en deux phrases. Puis j'ai tout catché ce qui m'était arrivé dans le passé. Parce que j'avais pas vraiment de mots pour ça. J'avais pas vraiment accès à l'information qu'on a aujourd'hui. Et puis, il y a juste quelqu'un qui m'a dit, un moment donné, j'avais comme 27 ans, puis il m'a dit, moi, des fois, je fais des crises d'angoisse. Je dis, moi, c'est quoi ça? Ben, c'est comme si, dans le fond, t'es chez vous, puis soudainement, il y a un lion dans le salon. Fait que ton corps réagit, ton cœur va plus vite, t'as peur, ton poids le repousse. C'est comme, t'es en situation de panique parce que t'as un lion, mais il n'y a pas de lion. Fait que ton corps, il fait juste réagir. C'est une réaction physique, tu sais. Fait que quand ça s'est arrivé, j'ai dit, aïe, ça fait des années que je me bats contre ça. J'avais aucune idée. Je savais pas trop comme c'était quoi. Je pensais juste que j'étais en train de virer fou, tu sais. Et puis, ça a fait. Cette phrase-là m'a aidé à comprendre comme.
Il n'y a pas de lion.
Il n'y a pas de lion. Fait que peu importe ce qui arrive, tu sais, si je fais de l'anxiété, c'est comme si. C'est une expression anglophone, je ne sais jamais comment la traduire, c'est « lean into it ».
Ouais, ouais.
Tu sais, là, « lean into it », mettons, tu as un problème sur scène, tu sais, il y a quelqu'un qui dit quoi, à la place de faire semblant que ça n'arrive pas, « lean into it », vas-y avec, là. Oh, oui, le gars dit ça, mais moi, je vais répondre ça, puis tu sais, peu importe, c'est la même affaire que l'anxiété, c'est que quand ça arrive, à la place de dire, « oh mon Dieu, il ne faut pas que je sois anxieux », ça rend ça 1000 fois pire, c'est « just take me, juste prends-moi, l'anxiété, hey, c'est quoi, prends-moi ». Puis juste cette attitude-là de détachement règle en grande partie l'anxiété. Tu sais, puis c'est bizarre, c'est juste de l'accepter. Puis c'est comme notre plus grande peur, c'est la peur. Puis à un moment donné, une fois que tu n'as plus peur de la peur, ben, comme, OK.
Qu'est-ce qui va te faire peur?
Ben, c'est ça, il n'y a plus rien. Fait que c'est comme si tu acceptes, OK, ben, c'est quoi, ça me tue? Fuck it, ça me tuera. Puis ça tue jamais, c'est de l'anxiété.
C'est ça que je m'aperçois.
C'est jamais rien qui arrive, là. Non. C'est de l'anxiété. C'est tout comme des hormones de trop, là. Je sais pas si c'est de la...
C'est quelque chose. Quelqu'un avait décrit ça aussi comme c'est parce que tu penses trop à des choses qui ont déjà passé, que tu peux pas changer anyway. Ou t'as peur, t'es anxieux du futur que tu peux pas changer maintenant. Non. Anyway, c'est même pas arrivé, c'est même pas une vérité de la peur que t'as.
Ouais.
Alors tu vis dans ce stade de limbo, au milieu des deux, puis tu deviens anxieux avec deux possibilités que tu peux pas changer maintenant.
Non.
Qui t'affectent même pas.
Puis ça, quand j'aurais des enfants ou si j'avais, mettons, des conseils à me donner à moi-même quand j'étais jeune, là, c'est pas de contrôler ce que tu peux pas contrôler.
Ouais.
C'est pas de contrôler ça. Contrôle le bout que tu contrôles, c'est-à-dire toi, ce que tu manges, ce que tu fais, c'est une coupe d'affaires, là, où tu mets ton argent, les mondes avec qui tu fréquentes. T'sais, de contrôler ce bout-là, mais la plupart des affaires, on le contrôle pas. Fait que je commençais pas à stresser sur le fait que, hey, finalement, cette année, il n'y aura pas de budget pour le bye-bye. C'est au-delà de moi. Là.
C'est plus le bye-bye, c'est le hello.
C'est le hello. OK, ben fine, c'est pas moi qui ai décidé. Non, mais dans le sens que, tu sais, je ne commencerai pas à stresser pour ce que je contrôle pas. Là. Je vais faire juste le bout que je... Mais c'est facile à dire, mais des fois, c'est dur parce qu'on rentre dans une loupe.
Enfin, le bye-bye, j'ai même pas. Le bye-bye, parce qu'il y a plein de productions. Tu travailles déjà sur le bye-bye maintenant, non?
Pour commencer tôt, assez tôt. Fin août.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. OK, OK. Ouais. Ça, c'est-tu fun ou est-ce que ça devient un grand travail?
C'est le fun. Ben là, c'est la 8e année que je vais faire cette année. Mais c'est du travail. Puis c'est du travail intense. Mais là, vu que ça fait 8 ans, je connais vraiment le
monde,
show,
puis
je sais comment le faire. Là. Fait que c'est beaucoup moins d'énergie que c'était au début.
OK.
Fait que là, ça se fait relativement. Là, c'est le fun. Là.
OK.
Ouais, c'est pas. Avant, je sortais de là. Chaque année, je tombais malade pendant une semaine. Je me suis ramassé à l'hôpital pendant le tournage parce que mon système digestif a juste cessé de fonctionner. Mais là, j'ai plus rien de ça. Là.
Non, là, t'es relax.
Ouais,
j'aime ce Simon-là. Fucking chill, let's go.
Hey, ça a été long avant d'arriver là, par exemple. C'était long.
Tu vis ta vie.
Je vis ma vie. Puis c'est-tu une autre affaire? Il y a une autre phrase, moi, qui a changé ma vie. C'est, je me souviens plus qui l'a dit. Puis là, je vais dire Benedict Cumberbatch, mais c'est peut-être pas lui pantoute.
Doctor Strange.
Peut-être. Mais je suis pas sûr. Mais c'est un acteur de ce genre-là qui a dit que j'ai lu une phrase à quelque part, puis ça a changé ma vie. La phrase, c'est « T'as deux vies. T'as deux vies. T'as la vie que t'as en ce moment, puis t'as la vie que t'as quand tu te rends compte que t'as juste une vie.
Oh. »
Puis quand tu te rends compte que t'as juste une vie, c'est comme, si je le fais pas maintenant, ce que je veux, c'est fini après. Il n'y a pas de prise deux, là. Après ça, c'est fini. Fait que si t'as quelque chose que t'aimes faire, là, fais-les. C'est là, là.
Ça, c'était le même motto de vie de Bill Cosby.
Oh shit.
Ouais. C'est maintenant.
Oh, jamais, it's now.
Drink this quick. We don't have time. Non, mais ça, c'est bon, hein. Des fois, je me motive comme ça. Tu sais, il y a quelque chose que j'ai un peu peur, puis je suis comme, ben, que je dois essayer. Je dois le faire maintenant, sinon, j'ai rien à perdre. Je peux pas. C'est ou bien maintenant, je n'ai pas. Puis la majorité des choses que je fais que le monde trouve cool, etc., c'était des décisions que j'ai prises de même.
C'est comme,
ouais.
C'est comme, si je le fais pas là, ça se fera jamais.
Ouais.
Ah, c'est tout. Ça se fera juste pas. Fait que j'ai mon temps de l'essayer. C'est comme, ben ouais.
Ah, j'aime ça. Ben écoute, Simon, moi je t'ai gardé déjà un peu trop.
Ah oui?
Merci d'être venu au Frenchcast.
Ben là, un énorme merci.
C'était beaucoup, beaucoup de fun.
Ben, vraiment.
J'ai d'autres choses à discuter, mais hors caméra, parce que c'est cool. Mais merci. Puis maintenant, ton projet, le prochain projet que tu veux que le monde te voit, c'est quoi? C'est le bye-bye?
Ben le projet, c'est le bye-bye. Je travaille sur d'autres choses que j'ai hâte de pouvoir parler de. Mais
tu vas le poster sur tes réseaux, non?
Moi, je vais poster, puis peut-être que quand je sortirai quelque chose, je reviendrai te voir si ça te tente.
Oh, quand tu veux.
Fait que, please, c'était vraiment le fun.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.